Écoutez la lecture de l'Ancien Testament dans le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 20. Pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont demeurés loin de toi, sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Ainsi se termine la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez la lecture de l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 1 à 6. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Ainsi se termine la lecture de l'Épître. Écoutez la lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever, en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après les couchers du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Ainsi se termine la lecture de l'Évangile. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Nous chantons le cantique indiqué sur le panneau. Sur le panneau, je ne le vois pas là. 183. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous accueilles dans ton Église. Rappelle-nous par ta parole que nous t'appartenons, que tu nous as libérés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Remplis-nous d'amour pour toi et pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Préserve-nous de la tiédeur et permet que nous trouvions notre joie à te servir et à servir notre prochain. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur, ouvre nos oreilles afin que nous entendions ta parole. Ouvre nos cœurs afin que ta parole nous pénètre et nous nourrisse. Les lectures choisies pour ce dimanche tournent autour d'un même sujet central, la liberté du peuple de Dieu. Le but primordial de ces trois textes est de nous réconforter et de nous encourager à mener une vie nouvelle. Si tout était dit en deux phrases, le prédicateur pourrait descendre de la chair et la communauté pourrait entonner la louange. Pourtant, nous avons entendu trois lectures qui ne sont pas aisées à comprendre, qui posent des questions. Cette liberté était-elle sans borne ou sommes-nous soumis à des obligations? Est-ce que la liberté est un doux oreiller sur lequel il fait bon dormir ou un aiguillon puissant qui nous pousse à l'action? Ah oui, et pour ce qui est de Paul, évoquer la circoncision dans une lettre adressée à une paroisse chrétienne, est-ce bien nécessaire? N'est-elle pas libérée des anciennes obligations? Essayons de trouver quelques réponses en regardant de plus près nos trois textes. Les paroles que le prophète Sophonie adresse au peuple de Dieu parlent d'un passage de l'esclavage à la liberté. Esclave de puissance étrangère, Israël passera la liberté plénière du peuple que Dieu s'est choisi. Et même si cette liberté n'est pas encore manifeste, Israël peut déjà pousser des cris de triomphe, exulter de tout son cœur. Le temps des malheurs et des jugements défavorables de Dieu contre son peuple est fini. Dieu n'est plus le juge sévère et distant devant qui il faut trembler de peur, mais il est au milieu de son peuple un héros qui sauve, qui ne lui impute plus ses péchés. Sophonie nous informe sur le début de la liberté du peuple de Dieu. La liberté commence avec la volonté de Dieu de sauver son peuple. Et bien plus, il ôtera toutes les afflictions. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, ceux sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Je sauverai celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Ce sont de vraies paroles de consolation que prononce le prophète. Ne doutez pas de votre liberté, car Dieu veut vous libérer. Même si la situation est difficile, même si tout pointe vers la certitude, il faut savoir que la liberté est là, même si elle est cachée. Il y aura un jour, dit le prophète, où elle sera visible pour tous. Dieu décide de la liberté de son peuple. C'est lui qui la porte. Dieu aime son peuple et décide de ne pas lui imputer ses péchés. Sans mérite, le peuple de Dieu obtient la rémission des péchés et reçoit le don d'une liberté totale, bien que celle-ci ne sera plénière qu'à un jour fixé par le Seigneur, le jour où il rassemblera son peuple. À cause du projet divin de nous sauver, notre salut est acquis sans que nous en disposions. C'est en fait ce que nous annonçons chaque dimanche. En Jésus-Christ, Dieu nous a acquis le salut. Il nous sauve chaque jour en nous pardonnant nos péchés et en nous imputant la justice de son Fils, c'est-à-dire en nous libérant, en nous justifiant. Est-ce que cela veut dire que le peuple de Dieu peut se reposer sur ses lauriers? Non, dit le prophète, en défendant à Sion la paresse. Sion, s'exclame-t-il, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Être assuré d'un salut qu'on reçoit sans aucun mérite de sa part, donc de manière passive, cela ne veut pas dire rester sans rien faire, rester passif. Nous sommes libérés, alors œuvrons pour la liberté. Ne peut croire au royaume de Dieu que celui qui aime à la fois la terre et Dieu, a déjà déclaré Bonhoeffer en 1932. La liberté ne fait pas de nous des êtres retirés du monde. Le croyant n'a pas le droit de mépriser le monde, de vivre un christianisme intérieur sans conséquences pratiques. Si Dieu aime le monde au point de devenir monde pour sauver le monde, le chrétien ne peut pas ne pas aimer le monde, bien qu'il soit libéré de tout ce qui rend ce lieu un lieu d'esclavage. Le chrétien ne peut qu'aimer le monde, ne peut aimer le monde qu'avec violence, a dit le théologien allemand Jürgen Moltmann. Voici ses paroles. Plus un homme aime la terre avec violence, plus il ressent fortement l'injustice, la fatale autodestruction et l'abandon de la terre, et d'autant plus spontanément, il exhale sa plainte avec ceux qui souffrent et unit son cri à celui des blessés. L'amour de Dieu nous libère et fait de nous les serviteurs de notre prochain. Libérés, nous n'avons pas le droit d'accepter la non-liberté. Nous n'avons pas le droit de considérer la misère du monde comme un fait inéluctable ou comme un état déplorable mais passager, car relativisé par l'annonce de la liberté plénière à la fin de l'histoire. Nous, c'est nous en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église. Je cite encore Moltmann. L'Église, en tant que communauté des pécheurs justifiés, des libérés par le Christ, qui font l'expérience du salut et vivent dans l'action de grâce, se tient sur la voie de l'achèvement du sens de l'histoire du Christ. Toute tournée vers le Christ, elle vit dans le Saint-Esprit et elle est ainsi elle-même commencement et art de ce que sera la nouvelle création. Si l'Église, le peuple de Dieu, est libérée en premier et signe de libération totale, de la libération totale que Dieu destine à toute la création, elle doit annoncer cette libération en parole, par la proclamation, mais aussi en acte. C'est dans ce sens qu'elle doit achever le sens de l'histoire du Christ. Le Christ n'a pas accepté la misère du monde. Il prêche contre la servitude, celle qui enferme les êtres humains dans l'égoïsme, celle qui les emprisonne dans des structures aliénantes, celle qui accepte l'injustice, celle qui veut accepter les infirmités du monde. Apporter secours au monde en parole et en acte, c'est cela le sens de l'histoire du Christ, c'est à quoi sa vie nous appelle. La tâche de l'Église ne se limite pas à la proclamation dominicale. Jésus lui-même a vécu la diaconie, le soutien du prochain. Notre lecture de l'Évangile nous l'affirme. Il n'a pas refusé d'aller porter secours aux malades, aux démunis, aux exclus. C'est ce que nous enseignent les récits sur les guérisons miraculeuses. Dans notre texte, il guérit d'abord la belle-mère de Simon et ensuite une foule de malades qui souffraient de plusieurs maux. Ces maux sont physiques et dans le cas de ceux qui sont sous influence démoniaque, probablement psychologiques. Mais le plus grand secours que le Christ a apporté au monde, c'est le salut qu'il nous a acquis par sa victoire sur la mort. sans aucun mérite et aucune participation de notre part. C'est lui la bonne nouvelle. C'est lui qui réalise le projet salutaire que Dieu a avec son peuple. C'est aussi lui qui le proclame. Et c'est là encore qui nous a porté secours, en proclamant le projet salutaire que Dieu a avec nous. La bonne nouvelle, l'Évangile, c'est lui qui l'apporte pour ensuite nous exhorter à poursuivre la proclamation de l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et comme le montre son histoire, la bonne nouvelle, il ne la proclame pas seulement, il la vit. De manière pratique, en guérissant les pauvres, en s'attablant avec les gens de mauvaise vie, ceux que personne ne respecte, ceux qui sont exclus. Annoncer l'Évangile au monde, cela ne se fait pas seulement en paroles. Il faut des actes. Bien sûr, il ne s'agit pas d'imiter les actes de guérison miraculeuse accomplis par Jésus. Nous n'avons pas le pouvoir de faire des miracles. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons plus attendre des miracles. Mais ce n'est pas par imposition de main ou par d'autres gestes semblables que nous les opérons. La prière est beaucoup mieux adaptée que tous ces gestes. Le Christ nous a aussi enseigné à prier, à nous remettre à Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. L'importance de la prière est mise en exergue dans notre texte. C'est elle qui lie la pratique de l'Évangile à la prédication, qui permet de reprendre force et courage dans la communication avec Dieu, afin de ne pas se laisser dominer par le monde et ses soucis. Sans la proclamation de la parole libératrice, l'Église reste soumise au monde et ses soucis, au point de devenir monde. Une Église purement sociale ne peut porter secours au monde que de manière superficielle, en portant remède aux symptômes de la maladie du monde, sans lui communiquer ni le diagnostic de la cause de sa maladie, ni le pronostic de sa guérison. La mission de l'Église ne se réduit pas à la diaconie. L'épisode de la vie de Jésus, rapporté par l'Évangile de Marc, nous le confirme. Après avoir guéri les malades et après s'être recentré en priant en solitude, Jésus repart dans le monde pour prêcher, pour annoncer l'Évangile. L'Église vit bien dans ce monde. Elle y prend part sans s'y identifier. L'Église n'est pas une structure plus sainte que le monde. Elle est composée, comme le rappelle Moltmann, de pécheurs justifiés, de libérés par le Christ. Sa mission, c'est avant tout l'annonce de l'Évangile en parole et en acte. C'est cette mission que poursuit Paul. À l'époque de Paul, les chrétiens étaient encore en grande partie des juifs, c'est-à-dire des personnes nées dans des familles juives respectant la loi, la Torah, et jouissant d'une certaine liberté religieuse, sous condition de ne pas faire de la mission. Paul, lui aussi, est juif. Mais il veut apporter la bonne nouvelle aux païens, aux incirconcis, qui n'ont pas de mère juive. Il est convaincu du fait que le Christ veut qu'il fasse partie des enfants de Dieu. La mission des païens, c'est cela, la mission de Paul. C'est la raison de ses voyages et de ses conflits avec Jérusalem. À Jérusalem, on trouve les vieux apôtres, Pierre et les autres, qui pensent qu'être chrétien, c'est aussi suivre les vieilles pratiques juives. Mais Paul et Pierre s'arrivent à s'entendre, à fixer quelques règles par rapport à l'appartenance de ceux qui croient en Jésus-Christ. Quelques règles seulement qui ouvrent le chemin à la foi pour des centaines d'hommes et de femmes païens. Après ce conflit avec Jérusalem, il y en a d'autres. et Paul s'en mêle en écrivant aux paroisses concernées. Il y va de la liberté. Dans la paroisse des Galates, il y a eu de faux prophètes. Ces gens-là ont expliqué aux nouveaux chrétiens qu'ils ne remplissaient pas une condition très importante, à savoir la circoncision. Aujourd'hui, on ne sait plus trop qui étaient ces nouveaux adversaires. Des juifs, des gnostiques, des judéo-chrétiens gnostisants, peu importe. Ils veulent abolir la nouvelle liberté, introduire une ancienne condition, obligation. Comme si le don de l'esprit dépendait de cela. Car ce qui compte, dit l'apôtre, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui compte, c'est la foi qui remplit le monde d'amour. Croire, ce n'est pas savoir plus que les autres, dire aux autres comment il faut être, comment il faut faire. C'est avant tout être libre. Cette liberté ne souffre pas l'indifférence, mais implique le respect de l'autre. L'esprit ne souffre pas le fatalisme et le désespoir. Il ne souffre pas la jalousie et la vanité. Seule la liberté engendre la foi et l'amour de Dieu, de l'autre et de moi-même. Cette liberté est aussi vaste que le ciel. Elle guérit les cœurs brisés et découragés, réconcilie avec les autres et moi-même, et chasse le sentiment de culpabilité et des complexes d'infériorité. Dans son épître, Paul se met en rage contre ces prédicateurs de la peur et de la contrainte qui semblent avoir beaucoup de succès dans la paroisse. Il est triste pour ceux qui préfèrent les garanties trop faciles à la liberté qui enthousiasme. Préférer les fausses garanties, cela nous arrive aussi. Il nous arrive de regarder à droite et à gauche, mais pas le ciel. D'agir par peur et non pas librement, par amour. Il nous arrive d'abuser du nom de la liberté. Liberté ne veut pas dire que tout est permis, qu'il n'y a pas de limite. En nous donnant la liberté, l'esprit nous impose le respect de nous-mêmes, le secours de l'autre, nous rend libres d'aimer. La liberté se perd partout où on essaie de la garantir en usant de la force, en l'enfermant. Elle se meurt en Iran comme elle se meurt chez ceux qui déclinent leur piété en règles de conduite. La liberté nous exhorte à faire face à des conflits afin d'apporter la paix. La liberté est la clé de notre foi. Mission nécessaire et décision libre. Être serviteur de tous et libre à la fois. Obligé de témoigner et libre d'aimer. C'est en cela que réside la liberté chrétienne. L'Évangile nous libère et nous donne la capacité d'aimer Dieu et notre prochain d'un amour désintéressé. D'un amour libre qui n'est pas le produit du hasard. Nous n'avons pas le choix d'aimer ou de ne pas aimer notre prochain, de lui annoncer le pardon de Dieu et de le secourir. Aimer n'est pas un choix. Témoigner de l'Évangile en parole et en acte n'est pas un choix. Autrement dit, la foi nous rend libres d'aimer et cet amour fait de nous des serviteurs de tous. Luther reprendra d'autres paroles de Paul au début de son traité sur la liberté du chrétien. Le chrétien est l'homme le plus libre. Maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toute chose le plus serviable des serviteurs. Il est assujetti à tous. Nous sommes libres à cause de l'Évangile qui nous confirme que nous n'avons besoin que du Christ pour être sauvés, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nourris de cette confiance, portés par l'amour de Dieu, notre mission consiste à partager cette confiance avec le monde et de partager l'amour avec lui. La liberté nous appelle au service. Pour ce service, laissons-nous inspirer par l'apôtre qui, afin de gagner les Juifs et comme Juif, va vraiment à leur rencontre. L'Évangile veut que nous partagions la bonne nouvelle et que nous la vivions auprès des autres. Si nous restons loin des autres, nous ne sommes pas les témoins de l'Évangile et nous n'y avons pas part. Seigneur, aide-nous à devenir les vrais témoins de ton Évangile. Libère-nous de tout ce qui nous oppose à ta volonté, des murs qui nous séparent les uns des autres. Et fais de nous tes serviteurs fidèles en nous donnant ta liberté. Amen.